autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour soulever ensemble la plus essentielle des questions. Que signifie être vivant sur Terre aujourd'hui? À Paris comme à Brazzaville, à Mexico, au Caire, à Kiev, Sao Paulo ou Tokyo. Question ouverte à partager sur tous les continents. Demain jeudi 30 janvier pour la 5e édition de la Nuit des Idées à laquelle RFI est associée. Nous avons choisi de nous interroger en compagnie de nos invités, la professeure en intelligence artificielle Laurence Devillers, spécialiste des interactions homme-machine et de la modélisation de la parole, et du psychiatre Serge Tisseron, fondateur entre autres de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, sur ce que signifie être vivant dans un monde de machines interactives et d'assistants robots. Devenir machinique de l'humain, devenir humain des machines. Les débats seront ouverts à Paris, au CNAM, au Musée des Arts et Métiers, mais aussi à Sofia en Bulgarie, à Mar del Plata en Argentine, à Lagos au Nigeria ou à Izmir en Turquie, dans les instituts français hôte de cette Nuit des Idées, autour de la question que signifie être vivant aujourd'hui sur Terre. Bienvenue pour faire fuser, infuser et diffuser nos idées les plus fertiles pour notre humanité en devenir.
Une idée. Il me faut une idée.
Il faudrait qu'il ait l'impression que l'idée vient de lui.
Non, ça c'est pas une idée, c'est une connerie. Je parle d'une vraie idée.
L'idée est que nous travaillons ensemble. D'égal à égal.
Ah bah tiens, ça c'est une très bonne idée.
C'est mon idée.
Mais non, mais...
C'est mon idée.
Idée à partager, en tout cas, et à développer ensemble, où que vous soyez sur notre petite planète. Pour cette 5e édition de la Nuit des Idées, autour de la question que signifie être vivant aujourd'hui. Bonjour Laurence Devillers.
Bonjour.
Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous sur RFI, avant cette Nuit des Idées, que vous passerez, entre autres, au CNAM, au Musée des Arts et Métiers à Paris, autour de la thématique du devenir machinique des humains et du devenir humain des machines. Laurence Devillers, vous êtes professeure à l'Université Paris Sorbonne en informatique appliquée aux sciences sociales, chercheur en apprentissage machine, modélisation des émotions et interaction homme-machine au laboratoire LIMSI du CNRS, au sein duquel vous dirigez l'équipe de recherche sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Et vous êtes l'auteur aux éditions Plomb de « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités ». Votre prochain ouvrage à paraître en mars portera cette fois-ci sur les robots émotionnels. Je rappelle, Laurence, que vous êtes également membre de la branche numérique du Comité consultatif national d'éthique. Au cœur donc de toutes nos questions du jour et de toutes les questions de la Nuit des Idées, que signifie pour vous, Laurence Devillers, être vivant? Question énorme, mais j'ai envie de dire être vivant, plutôt rester vivant et humain dans un monde de machines intelligentes et de robots interactifs.
C'est la question essentielle. Nous sommes vivants parce que nous sommes vulnérables, nous sommes vivants et nous aimons, nous ressentons ce que ne savent pas faire les machines. Nous créons et nous avons des idées. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Si ces machines sont là, c'est parce qu'on a eu l'idée de les faire. Si ces machines, finalement, arrivent à nous tromper, c'est qu'on a su le faire avec une certaine complexité technologique. Mais il faut rester prudent sur ce que c'est vraiment faire la machine. Et ces ouvrages, en tout cas pour moi, je me suis engagée dans l'idée de faire comprendre, essayer de faire prendre conscience des vrais niveaux technologiques qui sont dans ces machines pour éviter d'en avoir peur pour rien et en même temps s'en méfier quand il faut s'en méfier.
Oui, avoir les bonnes peurs aux bons endroits, disons.
C'est cela. Puisque en fait, ce système doit être appréhendé d'un point de vue usage, mais également d'un point de vue construction.
Dès la conception.
Voilà. Et on parle de plus en plus de construire ces machines en réfléchissant aux conséquences et à l'éthique des usages.
Quand on est un chercheur préoccupé d'éthique comme vous, Laurence. Serge Tisseron, alors vous êtes psychiatre, membre de l'Académie des technologies, chercheur associé à l'Université Paris Diderot. Vous avez cofondé l'Institut pour l'étude des relations hommes-machines, hommes-robots. Pardon, car vos travaux, Serge Tisseron, portent depuis longtemps sur notre relation humaine aux objets et désormais aux objets numériques, dotés d'intelligence artificielle avec lesquels nous interagissons et conversons. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, on ne peut pas citer tous vos ouvrages, allez, citons le dernier, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle aux éditions Albin Michel. Et j'ai envie de citer également votre prochain essai à paraître en mars qui s'intitule Plus jamais seul, l'emprise insidieuse des machines parlantes ou la révolution silencieuse de ces machines parlantes. Que signifie pour vous, Serge Tisseron, même question, être humain ou plutôt rester humain aujourd'hui?
Alors, je ne suis pas certain que la définition doive être absolument différente de ce qu'elle était dans les siècles précédents. Je pense que être humain a toujours impliqué l'obligation et la vigilance à rester humain. Et on n'a pas attendu les machines pour que des humains traitent des semblables comme de simples objets de rebut dont il fallait se débarrasser. Je pense que être humain, ben, c'est se considérer comme un humain parmi les hommes, comme un homme parmi les hommes, hein, solidaire de tous les autres. Et je crois que c'est cette dimension de solidarité entre humains qui est essentielle. Et c'est pour ça qu'il va être absolument essentiel d'élever nos enfants dans une distinction claire entre les machines, aussi perfectionnées soient-elles, aussi dotées soient-elles de compétences à simuler l'humain, les machines d'un côté et puis les vrais humains de l'autre, effectivement, qui auront probablement de plus en plus des faiblesses qui sauteront aux yeux parce que les machines pourront en être exemptées. Mais il sera quand même essentiel de maintenir cette distinction, un humain parmi les humains, solidaire de tous les humains.
Et oui, mais en même temps, si on revient à la question être vivant, est-ce que être humain parmi les humains et parmi les machines, c'est la même chose?
Alors, être vivant, vous savez, c'est une question évidemment compliquée parce que nous avons en fait deux systèmes pour nous guider dans notre représentation du monde avec les créatures animées qui nous entourent. Un premier système tourne autour de la question, est-ce que cette créature est dotée d'une intentionnalité propre et d'une énergie propre qui lui permet de faire ses propres choix. Et il est bien évident que les machines qui nous entourent, pour beaucoup de gens, ne seront pas jugées comme étant semblables à des humains, comme étant des créatures animées. Elles ne seront pas non plus confondues avec des animaux. Mais en revanche, nous avons aussi un deuxième système qui nous permet de nous guider dans nos relations. C'est un système dont la logique est très différente puisqu'il s'agit de savoir si nous intégrons une créature dans notre réseau social. Or, il est bien évident que de plus en plus, les machines dotées de la capacité de simuler des émotions, voire plus, hein, puisqu'on parle même de machines capables de simuler l'attention conjointe, capables de simuler des résonances inconscientes entre humains, notamment au niveau moteur, il est bien évident que ces machines, nous serons tentés de les intégrer dans notre réseau social. Et du coup, ben, rester humain au milieu des machines, ça va nous obliger à une vigilance constante. Ce n'est pas parce que nous intégrerons des machines dans notre réseau social qu'il faudra pour autant les considérer comme les humains qui, eux aussi, seront intégrés dans notre réseau social.
Autour de l'immense question « Que signifie être vivant aujourd'hui ?», nous interrogerons au cours de cette émission d'autres penseurs, hein, j'ai envie de dire penseurs P-E-N-S-E-U-R-S et autres penseurs, hein, P-A-N-S-E-U-R-E-S, hein, parfois, de notre humanité en devenir, à suivre entre autres l'économiste sénégalais Félouine Sarr, qui sera lui à l'Institut français du Caire pour cette nuit des idées, à suivre aussi du côté de Montreuil, ça c'est en proche banlieue parisienne, à la Marbrerie, où se déroulera une nuit des vivants vivants, orchestrée par l'écrivain de science-fiction Alain Damasio, dont les interrogations rejoignent les nôtres, on l'écoute.
Vous savez, moi ce qui m'a toujours fasciné en tant qu'auteur de science-fiction, c'est pas les soucoupes volantes, les martiens, les robots, etc. C'est la façon dont l'homme réinvente sans cesse ce qu'il est par la technologie. C'est le type d'humain que nous sommes en train de fabriquer. Nous réinventons notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et peut-être et même surtout notre rapport à soi, notre construction de soi, par la technologie. Alors il y a une jouissance là-dedans, évidente. Il y a comme une dilatation de nos égos offerts par ces technologies familières, quotidiennes, qu'on pratique tous, typiquement le smartphone, une extension bourgeonnante de petits dispositifs tactiles et bienveillants autour de nous, qui nous assistent, qui nous prolongent, et qui font de nous de jeunes dieux agiles auxquels, vous voyez, le fantôme digital du monde répondrait. Au doigt, comme ça, et à l'œil, évidemment. Alors on voit bien ce qu'on y gagne, une maîtrise, un pouvoir accru sur le monde, notre monde. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus profondément, plus subtilement aussi, quelque chose que nous serions en train d'y perdre ?
Et voilà, la question est posée, j'ai envie de dire bien posée par Antonio Damasio, Laurence de Villers. Alors qu'avons-nous à gagner ? Et qu'avons-nous à perdre de ces évolutions numériques, technologiques si rapides et sur lesquelles à la fois vous travaillez et à la fois vous voulez vous méfier, enfin vous voulez nous inviter à nous méfier et en même temps à continuer à interagir avec. On ne va pas arrêter cette évolution-là.
Oui, je trouve que cette question, elle devrait être posée par tous les scientifiques qui construisent ce genre d'objets déjà.
Ce qui est votre cas.
Voilà, et c'est pas assez fréquent pour l'instant. On entend surtout des gens qui ne construisent pas ces machines, qui s'approprient ces terrains de jeu et de réflexion. en philosophie notamment, ou à partir de science-fiction. Alors déjà, dans ce qu'on entend là, on entend une projection très forte sur des machines capables d'être autonomes, d'être émotionnelles, etc., ce qui n'est pas du tout le cas.
Ce n'est pas le cas. Nos machines ne sont pas du tout capables de travailler en même temps sur la parole, la modélisation, oui, la parole, sur les émotions.
Elles sont très, très rudimentaires encore. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a quelques années pour affiner en fait, cette relation qu'on aurait bien pensée et qu'on ne pense pas assez avec ces futures machines. Donc il n'est pas essentiel de commencer à trembler maintenant. C'est le contraire. Je pense qu'il faut être vigilant sur le niveau réel de la technologie. Les robots, ça ne marche pas bien. Ça hésite quand ça marche. Et pour autant, on anthropomorphise, on projette sur ces machines qu'elles ont des intentions, etc. Pour l'instant, on en est vraiment à une projection de l'humain sur la machine.
Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, ces machines, quand on sait qu'elles nous parlent, qu'elles nous répondent, qu'elles interagissent, qu'elles nous calculent? Qu'est-ce qu'elles sont vraiment capables de faire?
Très peu de choses, en fait, parce que là, alors, sans doute, il est plus intéressant, il est plus drôle pour les humains de fantasmer ces sujets. Ouais, ouais. Hein, il y a une espèce de truc comme ça là, qui nous emmène dans le virtuel tout de suite. En fait, une machine, quand elle reconnaît la parole, ne comprend rien au contenu réel. Il n'y a pas de système qui permet de comprendre. Quand elle détecte des émotions ou qu'elle en génère, elle fait juste marcher un programme informatique ou des programmes informatiques qui ont en mémoire des façons de faire. C'est un peu comme une marionnette qui va jouer des sons côté à coller, et il se trouve que dans ces sons, on essaie de faire passer des émotions. Donc c'est une totale virtualité. Ça n'existe pas. L'émotion dans la machine n'existe pas. Et pour autant, elle va nous troubler. Et lorsqu'on essaie, de pousser cette machine, par exemple, on aura tendance à souffrir pour elle. Voilà. Donc chez nous...
C'est nous qui collons sur elle nos sentiments.
C'est un miroir, en fait, de ce que nous sommes. Alors, c'était très bien dit. Par contre, effectivement, on crée ces machines pour mieux se comprendre. Je crois qu'il y a cette infinie curiosité de l'humain, et son intelligence va sur qu'est-ce que je suis. Je suis seule. Donc, effectivement, ces machines, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter pour être moins seule? Comment elles vont m'apporter pour mieux nous comprendre? On a plein de biais partout, on fait plein d'erreurs partout, parce qu'on sait survivre, parce qu'on sait s'adapter très vite, parce qu'on sait réfléchir très vite. Ces machines font beaucoup d'erreurs également, mais d'autres erreurs. Et ça, il faut le faire comprendre. On parle de biais, des algorithmes, mais il n'y a pas que ça. La machine est d'une telle pauvreté de compréhension du monde. Elle ne comprend pas le monde, elle a juste des programmes pour jouer des systèmes, les rejouer dans la bonne situation. Que c'est très pauvre.
Si... Un chercheur qu'on avait rencontré en informatique, hein, qui travaille notamment à l'EPFL à Lausanne, nous disait qu'il avait plus peur au fond de la bêtise naturelle des machines que de leur intelligence artificielle.
Ah mais c'est très clair. C'est très clair. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit, elle ne comprend pas nos sentiments, elle exprime des choses qu'on lui a mis déjà, et donc c'est pas nouveau, c'est pas elle qui le crée, elle ne fait que répéter. Ce sont des espèces de perroquets qui savent s'adapter à l'instant parce qu'ils détectent certaines choses qu'on leur a demandé de détecter, et donc ils réagissent à ça. Et donc, à travers la projection qu'on fait sur ces machines, on va beaucoup plus loin, et je pense que c'est cette justesse de ton qu'il faut savoir garder pour se demander à quoi ça peut servir. Et ça peut servir pour soigner des gens qui ont des pathologies de dépression, pour soigner dans le grand âge et aider à garder le langage. Il y a énormément à gagner, mais à perdre aussi si on ne s'intéresse pas vraiment à comprendre les réels niveaux qui sont codés dans ces machines.
Serge Tisseron, alors vous considérez tout de même, et vous travaillez désormais sur ces machines qui nous parlent. Hein. Laurence de Villers vient de dire qu'elles ne sont pas capables d'empathie. Effectivement, vous êtes d'accord avec ça, sauf que nous, quoi, on projette sur elles tout ça. Pourquoi est-ce que ça vous fait quand même peur par rapport à la préservation de notre humanité, justement?
Oui. D'abord, je voudrais dire, par rapport au petit extrait sonore qu'on a entendu, que je pense que ce n'est pas une bonne idée de poser la question en termes de ce qu'on perd. C'est ce qui change. Et toutes les fois où quelque chose change, il y a évidemment une perte et il y a un gain. Mais posons plutôt la question en termes de ce qui change plutôt qu'en termes de ce qu'on perd.
D'accord.
Ça fait un petit peu catastrophiste. Hein. Qu'est-ce qu'on perd? Et d'un coup, il y a un affolement.
Oui, oui.
Non.
Oui.
On gagne et on perd parce que tout change. Tout est en train de changer avec l'intelligence artificielle.
Alors, effectivement, et ça d'ailleurs, on ne peut pas l'empêcher.
Voilà.
Donc comment on fait?
Absolument.
C'est ça,
hein. Alors nous, à l'Institut pour l'étude des relations robots, on est préoccupé du maillon faible de l'intelligence artificielle qui est l'homme. C'est-à-dire que, vous
c'est
savez,
pas mal, ça.
L'être humain,
hein.
l'être humain vit sur un certain nombre d'illusions, c'est-à-dire l'idée qu'il est rationnel, qu'il est logique, qu'il est libre. Et on s'aperçoit que des machines extrêmement simples, alors je prends un exemple que tout le monde connaît, les Tamagotchi, c'est ces petits objets-là qui sont apparus il y a une quinzaine d'années, c'était tout petit, c'était grand comme une boîte
d'allumettes.
Donc
il fallait prendre soin.
Voilà, il fallait en prendre soin. Eh bien, il y a des gens qui... Donc il y avait des gens un peu facétieux qui en offraient à des personnes qu'ils connaissaient, et puis les personnes qui recevaient ces petits objets, vous savez, quand ils étaient mis en route, il fallait s'en occuper, comme on disait, et alors il fallait les nourrir, il fallait les promener, tout. Et il y a des gens qui s'imposaient cette contrainte. Et on s'est aperçu d'ailleurs à l'époque que des enfants étaient beaucoup plus facétieux encore, puisqu'ils s'amusaient des fois à essayer de les faire mourir le plus vite possible, donc il y avait un détournement de la logique de la machine, mais beaucoup d'adultes raisonnables s'imposaient des tâches totalement non raisonnables, qui étaient de s'occuper de ces créatures numériques extrêmement simples. Et donc du coup, ce qui nous préoccupe à l'Institut pour l'étude des relations hommes robots, c'est comment les êtres humains peuvent établir avec des machines extrêmement imparfaites des relations dans lesquelles leur capacité de s'illusionner sur les possibilités de ces machines devient le problème principal. Le problème, c'est pas qu'une machine soit capable ou non de fonctionner comme une intelligence humaine. On en est loin, loin, loin. Le problème, c'est de savoir dans quelle mesure une machine capable de répondre à certaines attentes peut faire imaginer à un humain qu'elle serait capable de répondre à beaucoup plus. Prenez l'exemple de la relation avec un enfant. On sait qu'un enfant n'est pas un adulte, qu'il ne peut pas répondre à beaucoup de questions, qu'il ne connaît pas du tout le monde. Mais l'enfant, on voit dans ses yeux et souvent on entend dans ses paroles qu'il ne comprend pas. Et alors on se dit, eh bien je vais lui expliquer, et petit à petit, il va grandir. Or aujourd'hui, la logique de beaucoup de machines, c'est en effet de nous inviter à interagir, à dire ce que nous voulons, à expliquer, et donc du coup créer, hélas, dans l'imaginaire de beaucoup d'usagers, le risque de créer dans l'imaginaire de beaucoup d'usagers, une relation qui sera vécue avec la machine sur le modèle de ce qu'elle a vécu avec l'enfant. Je vais l'aider à grandir. Et même si la machine est très imparfaite et qu'elle en est bien incapable, on ne pourra pas empêcher que des gens vivent dans cette illusion. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme travail à faire, non seulement pour dire que les machines resteront bêtes encore longtemps, hein, voilà, mais également pour faire en sorte que ça soit non seulement dit par les chercheurs ou les commerçants qui les vendent, mais que ça soit constamment rappelé par la machine elle-même.
Alors, avant de vous laisser réagir, je sais que vous avez envie de réagir, Laurence de Villers, mais j'ai envie de nous donner un petit exercice pratique, finalement, sur notre réaction d'être humain face à des machines parlantes. Hein, vous travaillez là-dessus, non pas sur ce qu'on va vous faire entendre tout de suite, mais vous travaillez sur la manière de faire parler, de faire interagir des machines. Je propose d'écouter deux options choisies par deux marchands, hein, on va dire, deux concurrents, Google et Apple, pour ne pas les nommer, qui ont choisi de manière différente de faire parler et de faire interagir leurs enceintes connectées, leurs prémices de robots conversationnels et autres compagnons digitaux. Publicité comparée une fois n'est pas coutume sur RFI, on l'écoute.
Ça, c'est Google Home. Avec lui, vous allez vite prendre goût au luxe d'avoir un assistant à la maison. Vous pouvez lui dire des trucs du genre « Ok Google, c'est quoi mon programme aujourd'hui ?» ou « Éteins la lumière ». Vous vous prenez pour qui ? Pour une personne normale très importante avec un assistant qui peut dire
« Le supermarché est ouvert jusqu'à 21h »
ou
« Votre vol pour Nice est à l'heure »
ou même
« Vous voulez que je vous appelle boss ? C'est bien ça ?»
Quoi ? Allez, si t'insistes.
Tout le plaisir est pour moi.
C'est qui cette voix ?
C'est Amazon Echo, regarde.
Alexa, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ?
Il y a de fortes chances de pluie à Nantes aujourd'hui.
Ça va ? Tu l'aurais dit ? T'es en retard ?
Ouais. Alexa, quelle heure il est ?
Il est 20h32.
Et on peut savoir comment il s'appelle ?
Alexa, trouve-moi une recette de tarte aux pommes.
J'ai une recette de tarte aux pommes.
Alexa, recommence ma musique.
J'aime les vies de ces castels.
À vos côtés pour tous les petits moments de la vie et les grands aussi.
Chers amis auditeurs, il ne s'agit pas évidemment de faire le match ni la pub entre Amazon et Google, mais entre ces deux procédés différents d'enceintes connectées qui nous permettent de nous interroger justement sur leurs effets, sur leurs actions qu'on ne peut pas prédire finalement en laboratoire ni même de façon intuitive. Moi, j'aurais au départ pensé qu'une voix humaine, c'était mieux pour une machine comme celle-là. Il y a eu deux choix finalement. Il y a une voix humaine, il y a une voix plus machinique. Qu'est-ce qu'il faut penser, Laurence de Villers, de cette interaction-là, de ces paroles-là, et finalement, de la manière dont, comme le disait Serge Tisseron, on réagit, nous, face à ça, face à une machine qui nous parle, ou que l'on interpelle.
Mais je suis tout à fait d'accord avec Serge Citron qu'il faut faire attention à cette vulnérabilité qu'on aura devant les machines, puisque c'est le propos que je tiens aussi et que je vais décrire dans ce nouveau livre. La voix de Google Home, qui tendait à être confondue facilement avec la voix d'un humain, pose problème. Et déjà en Californie, c'est les premiers à faire ça, ils proposent une loi qui est que de faire attention à différencier ces objets et qu'il n'y ait pas cette frontière meuble où on puisse se tromper et se dire « je parle à un humain alors que je parle à une machine ». En Californie, ce sont les premiers à faire ça. Pourquoi ne suit-on pas cette bonne idée? Je pense qu'on y arrivera en Europe bientôt.
Oui, donc on sache bien que c'est une machine à qui on s'adresse et qu'elle reste une machine.
Quand j'en parlais d'ailleurs sur Siri ou d'autres objets qui parlent avec les concepteurs de ces objets, disaient oui, mais là, regardez, on appuie sur un bouton, on dit OK pour la mettre en marche. Mais ça ne suffit pas, à mon avis, il faut travailler sur cette voix. Et notamment, la plupart de ces machines ont en fait des voix féminines. Si je regarde globalement,
les assistantes,
esclaves ont des voix féminines. Et donc, pourquoi? Pour éviter l'effet Frankenstein d'une voix adulte trop forte ou trop grave qui va pas avoir la même empathie, on va dire. Donc tout ça, c'est de la projection qu'on fait sur les machines. Mais quand même, on peut se dire 80% des codeurs sont des hommes, 80% de ces systèmes qui parlent ont des prénoms féminins, des voix féminines, Samantha, Sophia, etc. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet quantifié, assez facile. Pourquoi est-ce qu'on, quand on décroche ce genre de machine, on pourrait pas avoir aléatoirement une voix ressemblant à une voix d'homme, d'enfant, de femme ou machine? Et en tout cas, que
mais
la
ça
machine...
c'est possible dès la conception, il faut juste le vouloir,
c'est
le penser.
Qu'il faut,
c'est
voilà. Il faut prendre conscience de ça et regarder au niveau méta ce que ça veut dire d'être entouré par ces objets qu'on peut éteindre facilement, qui sont assistants, esclaves un peu, qui vont nous aider, qui sont bienveillants et finalement. J'ai un autre aspect que je voudrais dire aussi.
Oui.
Elles sont assez simples, ces machines. Si, moi, je me suis amusée à dire je suis triste à Google Home, qui m'a répondu par une phrase. 5 fois de suite, il m'a répondu par 5 phrases différentes. Il m'a proposé de me prendre dans les bras, il n'a pas de bras, je suis désolée, donc c'est déjà pouffé. Et puis, quand j'ai dit des bras, il m'a dit des bras en plus, déménageur à côté de chez vous. Voilà ce qu'il sait bien faire.
Ah ouais,
il sait bien
ça
nous
soulage,
localiser pour nous envoyer des propositions. C'est très mercantile tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut nous pousser à consommer, à acheter, à aller voir des choses, mais ce n'est pas anodin. Il y a une publicité, du marketing derrière tout ça. Donc je pense qu'il faut rappeler cela. On ne va pas trop s'occuper de ces voix, si ce n'est qu'il y a ce problème de trop de féminité. Moi, je pense qu'on pourrait faire des voix de machine-machine. Finalement, c'est assez rigolo. Éviter que ça soit trop enfantin non plus.
Vous m'avez dit aussi, Laurence de Villers, que ces machines, elles ne savent pas dire « je ne sais pas ». Je trouve ça extraordinaire.
Ah si, si, on peut leur expliquer
on
ça.
On pourrait
d'ailleurs
leur expliquer.
Voilà, la première machine s'appelait Elisa, qui était fait par Zygenbaum au MIT, au Massachusetts, qui est un laboratoire, grand laboratoire à Boston. Quand elle ne savait pas répondre, c'était pas évident dans les probabilités de l'algorithme de dire plutôt une phrase ou une autre, elle disait « je vous ai compris ». Voilà. Le « je ne sais pas » s'était transformé en « je vous ai compris ». Et cela participait du fait que l'on pensait que cette machine était intelligente. Donc on a des tas de trucs dans le dialogue pour modifier en fait la façon dont on va le percevoir. Donc il faut apprendre que ce sont des objets qui parlent de façon artificielle et que derrière il y a un écosystème. Et je crois que c'est ce terme-là qu'il faut comprendre, écosystème de la machine parlante. Ça sert à qui? Ça sert à quoi? Quels usages pour nous? En quoi c'est bien pour moi? En quoi c'est utile pour quelqu'un?
Il faut y réfléchir avant de l'acheter, hein, comme quoi on ne fait vraiment pas de la pub
voilà,
là-dessus. Hein, ce n'est pas le moment. Vous aimez ça? Vous en avez une?
Moi, j'en ai deux pour les tester, mais je les débranche.
Mais vous
n'en
avez pas chez vous. Voilà,
si, je les ai chez moi, mais je les débranche. Ils sont
parce
tout à fait
que,
inoffensifs. Bah, parce que ça continue à écouter si ça a envie, ce genre d'objet.
Et donc, ça enregistre.
Ça n'enregistre pas tout systématiquement, mais si quelqu'un au bout veut enregistrer, il le peut. Puisqu'il est alerté, quand vous faites OK Google, il se réveille. Donc forcément, il est là. Et quand je pose cette question, les gens disent « Ah ben non, on ne les arrête pas ». Donc tant qu'on n'aura pas compris cette gestion des données, cette puissance qu'ont ces objets qui sont là, soi-disant pour nous, en fait, on est, nous, complètement pris au jeu de ces machines. En fait, on collecte comme ça des tas de données qui vont permettre d'alimenter, de fabriquer des systèmes encore plus manipulateurs.
D'où
je travaille sur ces manipulations actuellement.
C'est ça, d'où l'intérêt de savoir, d'en être conscient, que des chercheurs s'en préoccupent et au moment de la conception immédiatement et le disent aux autres. Sauf que Serge Tisseron, vous allez un peu plus loin, si j'ose dire, et vous vous intéressez notamment aux enfants face aux écrans. Hein. Et vous dites qu'au fond, aujourd'hui, ce n'est pas tant que ça les écrans le problème, ça serait plus ces machines parlantes par rapport aux enfants.
Alors le problème, c'est fondamentalement l'environnement familial. Il n'y a jamais un enfant en écran, il y a toujours un enfant en écran une famille ou au moins un parent. Et puis, il n'y aura jamais un enfant, une enceinte connectée tout seul. Il y aura toujours un parent quelque part. Voilà. Mais je voudrais d'abord rebondir sur cette question des deux voix que nous avons entendues. Mm-hmm. Il faut bien comprendre que les informaticiens, les gens qui travaillent sur ces technologies sont comme nous, c'est-à-dire ils s'inquiètent des mêmes choses que nous. Donc, c'est vrai qu'il y a des propositions formidables dans ce domaine pour nous protéger, protéger les usagers des dangers. Le problème, c'est que ce ne sont pas les concepteurs qui commercialisent, ce sont les commerçants. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire à des chercheurs, mais écoute, par exemple, là, est-ce que tu crains pas que ta machine, finalement, elle puisse être un jour préférée à un humain parce qu'elle est agréable, elle est sympathique? Pas tout de suite, bien entendu, mais enfin, dans le progrès qui va être fait. Et plusieurs fois, ces chercheurs me répondent, ben, écoute, oui, mais j'ai prévu un système pour nous en protéger. Par exemple, que la machine, si on interagit avec elle pendant une heure, au bout d'une heure, elle dise, bon, maintenant, tu as bien interagi avec moi, et ben, je vais me mettre en veille pendant une autre heure, et puis tu vas faire autre chose. Et je dis, mais les commerçants, qu'est-ce qu'ils en pensent? La réponse est toujours la même. Les commerçants ne veulent pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'hélas, hein, ce n'est pas les commerçants, ce n'est pas les ingénieurs et
c'est
les concepteurs.
Ce sont les commerçants, c'est l'écosystème ce sont les commerçants. Qu'il y a derrière et, voilà. Et qu'il faut décrypter, effectivement.
Voilà. Et donc, par rapport aujourd'hui aux enceintes connectées, les enfants peuvent interagir avec elles, confier énormément de choses. Il paraît que quand on demande à Amazon, à Alexa, est-ce que je peux te raconter un secret, la machine répond OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que Amazon va faire de tous ces secrets?
On ne va pas les garder précieusement. On va bien les enregistrer, les secrets, c'est ça.
Alors, autour du choix des voix, c'est inévitable que les usagers aient envie du choix des voix. Il existe déjà l'équivalent pour traficoter des voix de synthèse du logiciel Photoshop pour les photographies. Mm-hmm. Le logiciel Photoshop photographie, vous voyez l'enthousiasme que ça a provoqué. Plein de gens modifient leurs photographies. Et même maintenant, on modifie des vidéos. Vous connaissez le problème de vidéos trafiquées dans lesquelles on voit quelqu'un dire des choses qu'il n'a jamais dites, avec des mimiques évidemment qu'il n'a jamais eues, puisque rien n'est de lui. Donc il est inévitable que les usagers demandent à pouvoir mettre tôt ou tard à leur machine parlante la voix qu'ils désirent. Alors évidemment, il y aura des garde-fous. Est-ce qu'on va autoriser une voix enfantine, puisqu'après tout, si c'est des machines qui sont invitées à travailler pour nous, le travail des enfants est interdit, pourquoi faudrait-il permettre une voix enfantine sur une machine? Il y a des beaux débats juridiques qui s'annoncent. Mais il faut quand même savoir que là aussi, Google Home, comme vous nous présentez plutôt comme vertueux par rapport à la voix de sa machine, il a déposé un brevet en 2015 pour que il soit possible à terme aux usagers de donner à leur assistant conversationnel la voix d'une star de cinéma ou la voix du théâtre, enfin une personnalité people, ou même la voix d'une personne de la famille qui a disparu. Donc, vous voyez, l'idée fait son chemin quand même d'une totale liberté de choix des voix, avec un risque énorme, c'est que chacun va s'habituer à la voix qu'il a choisie et va finir par considérer que cette voix est la seule possible pour l'informer correctement. Il faudrait à la limite prévoir que les fabricants soient obligés tous les mois de proposer des voix alternatives, que fait un peu Amazon, vous savez, par rapport aux produits culturels que nous achetons, ils nous en proposent d'autres. Bon, pourquoi ne pas être vertueux jusqu'au bout et proposer des voix alternatives régulièrement pour informer au moins les gens du fait que leur choix est un choix parmi d'autres et que ce n'est pas forcément le meilleur, ni pour eux, ni pour les autres.
Laurence Duvillers ?
Oui, juste sur les chatbots, en fait, moi je participe.
Donc les chatbots, ce sont les robots
parlants.
Ce sont
les agents conversationnels, voilà. Ce sont ces machines parlantes, ces dialogues. Eh bien, je participe donc à la CCNE, vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure, c'est un comité d'éthique nationale qui dépend du Premier ministre, sur lequel il y a une nouvelle branche qui vient d'être ouverte sur le numérique. Et le premier dossier, c'est les chatbots.
Oui, qui remettra ses conclusions en 2022, si je me souviens
bien. Qui remettra ses premières conclusions à partir de juin. On a un an déjà de réflexion. Ça ne sera pas officiel. On va faire un workshop où on va vous inviter, Serge Titron, qui aura lieu en juin, pour parler justement des différents niveaux, de ce que c'est que donner un nom à une machine, ce que c'est que donner une voix de quelqu'un qu'on connaît, etc. Qu'est-ce que ça engendre? Et les groupes de réflexion, donc je suis en charge de ce sujet avec Alexei Greenbaum, et on a tout un groupe donc, de participants qui sont à la fois des juristes, des sociologues, des anthropologues, des industriels. Donc il y a une grande richesse de points de vue et qui va nous permettre d'élaborer, non pas des lois, hein, il y a des juristes aussi qui sont là, mais des prémices de
pour
ce
y
qu'on
réfléchir
pourrait
avant,
mettre
hein,
en place
ça.
Et normaliser.
En tout cas, on se rend compte qu'il est grand temps de s'interroger collectivement hein, autour de la question que signifie être vivant aujourd'hui avec les machines sur Terre, en prélude à la nuit des idées sur toute la Terre, ou presque. Allez, je propose qu'on écoute Dupin sur RFI, les vivants en occitan.
pas, hier bonne pas mourir des fangas de tissot. L'ouma, où est la mespresse, dis une raille de souleur. Si un peu de rousse, va sa benga de tissot. Yes, où travaillez la salut. Yes, où est le plus travaillé, mi crébia, l'oubradi. Travaille à faire compa, voudriez belle que sème la sienne comme ta. Nous sommes les vivants, ils ont cessé de me criminaliser les vivants. Nous sommes les vivants, sommes-nous la cible, l'ennemi. Sono caricati la televisione, mesi giamai, mes amici. Ma gli cieli sono tutti ben vesti. L'umerca farà la lei, esatto che ci fa gau. L'umerca farà la lei. Ma il cuore fa la lei a fare l'inganno. E sa vi già che le vivan sono a travagliare. Nous sommes les vivants.
Les vivants, Dupin sur RFI, nous sommes partenaires de la Nuit des idées, ce sera ce jeudi sur tous les continents autour de la question que signifie être vivant aujourd'hui sur Terre, sur toute la Terre, au nord comme au sud. Il y aura de nombreuses nuits des idées organisées sur tout le continent africain, notamment au Nigeria. L'Institut français à Lagos organise une nuit Being Alive, être vivant à Lagos en 2020, en compagnie de penseurs du continent anglophone et francophone. Et puis en Égypte, deux nuits des idées consécutives au Caire et à Alexandrie, où dialogueront penseurs et artistes, dialogue pour des mondes vivants, auquel participera entre autres Felwin Sarr, écrivain et économiste engagé dans l'afrotopie, que nous avons joint par téléphone à Dakar avant son départ pour le Caire. Écoutez son éclairage vu d'Afrique, vu du continent, autour de la question qui nous occupe du devenir machinique des humains et humain des machines.
En fait, si on regarde l'histoire du rapport à la technique du continent africain, qui est un rapport ancien, dont on peut faire la généalogie et l'histoire, je pense qu'il y a toujours eu cette articulation entre l'individu, l'humain, l'objet, la matérialité de l'objet pour produire un tiers, produire une interface, produire un message, etc., etc. Et aujourd'hui, si on voit les usages du téléphone portable dans le continent africain, j'ai l'impression qu'ils se réinscrivent dans une culture ancienne du rapport à l'artefact. Ce n'est pas quelque chose de neuf. Et on peut lire cette inscription de la technique dans la vie de tous les jours, on peut le lire sous plusieurs modalités, et on peut même le lire dans ses formes anciennes. Je pense que la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est quelles limites allons-nous mettre à l'assemblage, ou bien aux grands assemblages, ou à cette idée que le futur qui nous est vendu comme étant le seul souhaitable, c'est celui où nous deviendrons des êtres hybrides, totalement articulés à des artefacts, à des composantes externes, à des machines, à de la robotique, et que notre ontologie fondamentale doit évoluer vers ça. Et le rapport au vivant qui nous accueille, à la naturalité du vivant, et qu'est-ce que nous faisons de cela en fait, et jusqu'où imposons-nous des limites à notre propre mutation ontologique. Moi, je serais d'avis de réintégrer, de réenchasser les processus de vie dans le vivant, et de considérer que nous devons soigner le vivant, que nous devons bien sûr faire usage d'artefacts, mais nous devons rester les maîtres de l'usage de l'artefact, et que notre identité profonde et fondamentale doit rester enchâssée, reconnectée à ce qui nous a toujours nourris, donc c'est le vivant. Et de ce fait, nous devons en prendre soin et ne pas considérer que si nous le dévastons et nous le saccageons, ce n'est pas grave, puisque nous créerons des conditions artificielles et synthétiques de la vie. Et c'est le point de vue qui est le mien, et je pense que le continent a des ressources énormes pour opérer ce tri, pour opérer cette ligne de partage entre un usage intelligent, utile, de l'artefact, mais tout en préservant un ancrage fondamental dans le vivant et tout en cultivant la préservation du vivant comme étant le lieu qui nous habite, le lieu qui nous est hospitalier. Et c'est absolument fondamental que nous le soignions et que nous le réparions.
qui veut réagir à cet éclairage de l'économiste et écrivain sénégalais Félouine Sarr, qui participera au Caire et à Alexandrie à cette nuit des idées. Serge Tisseron ?
Oui, je veux bien. Je voudrais réagir sur devenir humain des machines, devenir machinique de l'humain. Parce que ces deux expressions qui paraissent merveilleusement symétriques nous cachent quand même une asymétrie essentielle. C'est-à-dire que même si l'humain décide de se métisser aux machines et... c'est pour moi inévitable, hein, pour beaucoup de raisons, eh bien, c'est l'humain qui décidera de se métisser aux machines. Ce n'est pas les machines qui décideront de se métisser à l'humain.
C'est encore nous qui décidons.
Oui. Voilà, c'est toujours nous qui déciderons. Donc, il faut bien marquer cette asymétrie-là, et parce qu'elle est fondatrice, encore une fois, de la distinction entre l'homme et la machine. C'est la machine qui répond à l'homme, ce n'est pas l'homme qui répond à la machine. Mais c'est bien là que va se poser un problème éthique énorme, c'est que beaucoup de gens, quand des machines vont leur fournir des conseils de consommation, pour organiser leur vie, beaucoup de gens risquent de suivre les propositions des machines. Je pense aux horoscopes, vous voyez comme beaucoup de gens sont influencés par les horoscopes. Le jour où l'horoscope sera fait par une intelligence artificielle, ce qui nous aurait tardé, et que surtout elle sera capable de fournir des horoscopes
c'est
à la carte. C'est déjà le cas. Parce qu'elle sera capable de fournir des horoscopes à la carte à chaque usager, eh bien, il est bien évident que les usagers seront beaucoup plus aptes à obéir à la machine qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Alors comment faire justement pour ne pas obéir à ces machines, Laurence de Villers, que vous nous disiez, alors déjà qu'elles sont belles, que finalement elles ne sont pas empathiques, elles n'ont pas d'émotion, que voilà, on leur comment faire pour ne pas nous faire avoir par tout l'écosystème marchand, on l'a bien compris, qu'il y a derrière, et comment quelles limites poser justement à la fabrication de ces machines robots qui nous parlent et que l'on nous-mêmes hein, que l'on diabolise ou que l'on vénère beaucoup trop finalement.
Oui, oui, je crois qu'il faut rester assez prudent en fait sur les termes qu'on utilise avec ces machines. Et on a tendance à trop employer de métaphores, hein, ce qui fait que le commun des mortels est perdu. Qu'est-ce que ça veut dire de parler des émotions pour les machines ? On devrait juste dire qu'elles ont une expressivité plus forte. L'émotion de quelqu'un, c'est caché. On ne le voit pas, on voit juste les traits du visage qui changent ou la voix qui va monter. Et c'est sur cette expressivité qu'est la machine.
Mais en même temps, vous travaillez sur... Comment vous travaillez ? Sur quoi vous travaillez quand vous travaillez sur justement les émotions, les interactions machine, Laurence de Villers ?
En fait, on enregistre beaucoup de personnes qui sont dans des situations réalistes où elles ont des émotions, où la voix est modifiée, par exemple. Et on va créer des systèmes qui sont capables d'aller détecter ce que pourrait être une émotion. Et ça, c'est un sujet très complexe pour lequel on n'a pas des résultats suffisants pour l'utiliser dans des systèmes. Et pourtant, il y a des gens qui utilisent ça, par exemple, pour recruter. Ils vont demander à des jeunes de parler, de dialoguer avec une machine, de répondre à des questions plutôt que dialoguer. Et derrière, ils estiment avoir des paramètres suffisants pour dire il est en attention, il répond rapidement, ou je ne sais quoi, ou il a des émotions. Et ça, il faut faire très attention parce que ces systèmes ne sont pas évalués, il n'y a pas de normes, il n'y a rien. Donc, ça, la créativité.
Il ne faut pas aller plus vite que la machine. Alors, on va tout le temps plus vite
on
que
va
la
toujours
machine,
trop,
quand je vous
trop
entends.
Trop vite, je pense. Et il y a cette fameuse question de l'évaluation. Si vous voulez, moi, quand je crée un système, je le crée et je l'évalue. Et tant que le système n'est pas assez bon, je ne le mets pas en œuvre. Il donne des tendances, peut-être. Dans ce cas-là, il faut le garder pour faire des jeux ou des choses comme ça, mais pas pour juger de l'humain, et en tout cas pas pour juger des compétences de l'humain à travers, par exemple, ces développements-là. Donc, l'autre chose qui est importante, c'est la manipulation, et vous en avez bien parlé. Nous sommes, effectivement, on a des tas de biais cognitifs, on va par paresse faire comme le voisin, etc. Moi, je m'intéresse maintenant au nudge, donc à l'incitation à faire, que pourraient faire ces machines qui nous parlent. Pour notre bien-être, pour peut-être avoir une meilleure hygiène de vie, pour la santé, mais aussi pour changer d'opinion politique ou bien d'autres choses. Et donc, il faut faire très attention à ces objectifs qui sont dans le marketing, dans la publicité, qui maintenant vont arriver dans ces machines parlantes.
Restons vigilants autour de la question comment rester vigilant et comment rester vivant. Peut-être qu'une des plus belles manières de sauvegarder notre humanité, ce serait de la partager en musique sur RFI et sans limite ni physique ni linguistique, avec Oasis Diop qui revisite en Wolof, s'il vous plaît, la magnifique chanson de Talking Heads, Once in a Lifetime.
À mon avis, d'un homme.
Once in a Lifetime, reprise en Wolof par Oasis Diop, du génial morceau des Talking Heads, mais avis qu'il va nous trotter dans la tête jusque demain, hein, pendant la nuit des idées, qui aura lieu autour de toute la planète, autour du thème être vivant, autour de la question combien y a-t-il, y aura-t-il de manière d'être vivant sur Terre. On a parlé du devenir humain des machines, du devenir machinique des humains. Il y a aussi bien sûr d'autres formes de vivant, bien d'autres formes, animales, végétales, voire bactériens. Comment cohabiter entre vivants, comment accorder leur place à tous les vivants. Cette question sera débattue entre autres à Alger, Jakarta, Kiev et Paris. Il sera aussi bien sûr question de l'urgence écologique, à N'Djamena par exemple, comme à Cuba. Autour de la question combien de manières y aura-t-il d'être vivant sur Terre, je vous propose un dernier éclairage pour ouvrir encore le champ des possibles. C'est celui de la chercheuse Emmanuelle Pouy-Débat qui étudie l'évolution des comportements et des intelligences animales.
Le premier mot qui me vient, moi, être vivant, c'est respecter. Et j'ai l'impression qu'on a perdu ce respect de la vie. Alors, on a perdu l'émerveillement pour la vie, ça c'est sûr. Mais on a perdu ce respect de la vie. Et être vivant, c'est aussi avoir la capacité d'évoluer. Et malheureusement, c'est peut-être un peu sombre, hein, mais on est en train de mettre en péril le potentiel évolutif de la vie. Et être vivant, pour moi, c'est vivre aujourd'hui, dans le présent, bien sûr, mais c'est aussi donner la chance à l'évolution de se poursuivre. Et pour moi, être vivant, c'est ça. C'est vivre, c'est le respect d'abord de la vie, et c'est le respect de l'évolution de la vie. Et j'ai l'impression que c'est un peu en péril en ce moment.
Et pourquoi et comment? Parce que vous travaillez, Emmanuelle Pouy-Débat, sur la bio-inspiration, hein, sur tous ces autres vivants sur Terre qui pourraient bien nous inspirer. Là aussi, c'est quoi? C'est d'autres manières d'être en vie, d'autres manières d'évoluer, tout aussi, voire plus ingénieuses, en tout cas plus frugales que les nôtres.
Oui, il y a autant de manières de vivre que d'espèces vivantes, hein. Chaque espèce et même chaque individu de chaque espèce a sa propre vie et sa propre manière d'évoluer. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a encore tout à découvrir sur la vie, justement. Rien que chez les animaux, je ne parle même pas des végétaux, mais rien que chez les animaux, on parle de 2 millions d'espèces à peu près connues. Il n'y en a que 10 000 de décrites. Donc ça vous laisse imaginer le potentiel de ce qu'il y a encore à découvrir en termes de vivre et de savoir vivre.
Être vivant, tiens donc, c'est vivre et c'est savoir vivre aussi. Alors c'est peut-être un peu ce savoir vivre-là avec les machines que nous avons, que nous sommes en train de construire, qui peut-être manque un peu aussi, Laurence de Villers.
Non, mais j'ai trouvé que c'était un témoignage extrêmement intéressant dans la curiosité qu'il apporte aussi, puisque le monde des animaux, le monde de la nature, c'est quelque chose qu'on va peut-être mieux connaître aussi, mieux comprendre grâce à ces machines, grâce à l'IA, grâce à ce qu'on peut appréhender.
Qui s'en inspire dans tous les sens, c'est-à-dire l'IA s'inspire en biomimétisme, enfin de la nature, et en même temps, du coup, nous permettrait de mieux comprendre.
On représente et on essaie de comprendre les comportements sans forcément essayer de faire un clone. Que pour cela, la vraie richesse en fait de l'utilisation de toutes ces machines, c'est mieux nous comprendre et mieux respecter. Et ce mot de respect est essentiel. Je pense que respect bienveillant, c'est ce qui devrait être les moteurs fondamentaux de ce qu'on est en train de faire. Si on peut mieux soigner, si on mieux aider dans le grand âge, il faut pas du tout arrêter cela. Ça serait pas éthique. Vous voyez, c'est un champ un peu complexe parce que
c'est une sorte de compromis. Enfin, faut tenir l'équilibre.
Voilà. C'est vraiment un équilibre. Et la coévolution humain-machine, c'est vraiment le centre de l'ouvrage que je viens d'écrire. C'est effectivement attention à l'évolution que l'on pourrait avoir. Pour moi, elle ne peut être que positive avec les machines, mais j'entrevois effectivement d'autres possibles sur lesquels il faut faire attention, sur lesquels il faut mettre des garde-fous pour continuer à vivre et savoir vivre ensemble. Il faut rester dans un écosystème d'humains qui se parlent. Et c'est essentiel de construire à plusieurs. Cet écosystème humain, c'est-à-dire nos interactions, sont les premières qu'il faut valoriser. Et ce que j'aime dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on en parle. On parle de plus en plus de cela. Et ça permet d'ouvrir aussi des boîtes de Pandore qu'on ne regardait pas. Et finalement, ces dangers nous apportent aussi cette idée d'aller plus loin et de comprendre mieux.
Serge Tisseron.
Oui, ben écoutez, nous partageons avec Laurence de Villers l'idée d'être des technophiles raisonnables et attentifs.
Oui, c'est mais, ça. Ne pas rejeter ce qui vient.
Voilà, absolument. Le problème, c'est que nous ne savons rien sur la manière dont ces machines vont être intégrées dans nos vies quotidiennes. Les études en laboratoire apprennent ce qui peut se passer dans une interaction ponctuelle. Éventuellement, l'étude est menée sur un mois. Or, on s'aperçoit dans nos études sur l'utilisation et l'intégration des robots dans les hôpitaux que les choses changent à trois mois, qu'elle change à six mois, qu'elle change à une année. Alors, si vous voulez, tout cela, bien sûr, ce n'est pas un problème. Faisons des études. Le problème, c'est que les fameux GAFA, eux, ils savent très bien comment ils vont faire en sorte que nous utilisions ces machines. Donc, d'un côté, on ne sait pas, et il faut que nous réfléchissions tous ensemble à la manière de l'utiliser.
Et de l'autre, il y a ces grands marchands qui savent céder trop vite
aux propositions d'usage qui nous sont faites par des gens, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, qui, eux, prétendent savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Voilà. Avec, vous savez, les machines d'Amazon, Alexa, qui répond plus facilement quand les enfants posent leurs questions poliment, avec des fois des bonus dans la réponse, voilà.
Alors donc, que vous, petit aparté, vous dites qu'il ne faut pas apprendre aux enfants à répondre poliment à une machine.
Enfants à répondre poliment à une machine, c'est la meilleure manière de brouiller leurs repères, parce qu'en plus ils sont enfants, entre l'humain et le non-humain. Donc voilà.
Sauf que c'est beaucoup de femmes qui sont représentées à travers ces machines. Donc c'est attention à cela aussi. Restons équilibrés sur. Il faut absolument pas maltraiter les machines, sinon on fait aussi des robots sexuels qui sont violés. Hein, donc attention.
Jusqu'où irons-nous avec ces machines.
En tout cas, prenant en compte le volet éducatif, c'est-à-dire que l'attitude d'un enfant aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans une famille où est installée une enceinte connectée, on n'attend pas que l'enfant ait 6 ans ou 8 ans pour qu'il interagisse avec elle. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de réfléchir non seulement à la relation de l'adulte aux machines dans les laboratoires, mais à la relation d'un enfant de 2, 3, 4, 5 ans avec ces objets qui, encore une fois, sont présentés par leurs fabricants comme des objets familiaux.
Donc vigilance, dernier mot, Laurence de Villers.
Oui, dernier mot. En fait, moi, je viens d'avoir une chaire IA sur ce sujet, le long terme. Et donc, on va travailler avec la Fondation Domicile sur l'aide pour les personnes âgées et faire des expériences sur le long terme, c'est-à-dire peut-être sur une année. Et puis, sur les écoles aussi, on intervient avec des robots auprès des enfants pour expliquer la manipulation qu'il peut y avoir derrière et faire qu'ils aient conscience aussi de ces... Quels sont ces objets? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter? Quels seraient les risques?
Nous rejoignons en ce moment nos préoccupations, nos pratiques, puis c'est ce que nous faisons à l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots.
Merci infiniment à tous les deux de fonctionner comme ça. Merci infiniment Serge Tisseron et Laurence de Villers, malgré un emploi du temps chargé, d'être venus partager avec nous quelques-unes des idées bien vivantes que vous développerez jeudi pour la 5e édition de cette Nuit des idées au CNAM, donc au Musée des Arts et Métiers à Paris, où beaucoup de lieux. Il y aura également, vous serez également à la Banque de France, Laurence de Villers, et puis il y aura également le Collège de France qui sera investi avec nos collègues de France Culture. La Nuit des idées se déclinera, vous le savez chers amis auditeurs, près de chez vous, dans le monde entier. On a parlé de Lagos, du Caire, d'Alexandrie, de Mexico ou de Kiev. Pour en savoir plus, le lien sur la Nuit des idées tout près de chez vous sur votre continent est à cliquer sur notre page. Je signale aussi les deux ouvrages à paraître en mars de nos invités. Laurence de Villers, Les robots émotionnels aux éditions de l'Observatoire, et Serge Tisseron, Plus jamais seul, l'emprise insidieuse des machines parlantes. Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Villette en coulisses pour remonter cette fois aux origines de la vie sur Terre. Autour de la question, comment tout a commencé, nous reviendrons sur la formidable découverte au Gabon des premières formes de vie multicellulaires. 1 milliard d'années plutôt que prévu, rien que ça, et pourquoi ça change tout. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.
Tout à l'heure sur RFI.